Vous êtes sur RTL.
Du parfum.
Vous voulez faire que ce cuir sente bon, n'est-ce pas, monsieur ?
Mais naturellement, et je vais y arriver.
Hein ? Avec amour et psyché de monsieur Pélissier.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Qui t'a donné cette absurde idée que j'userais du parfum d'un autre parfumeur ?
Vous en avez sur vous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues...
Il est mauvais, cet amour et psyché, maître. Il y a un peu trop de romarin dedans.
Sur RTL.
Tu as le nez fin, c'est une évidence, jeune homme, mais je...
Mon nez connaît toutes les odeurs du monde. C'est le meilleur nez de Paris.
Comment tu t'appelles déjà ?
Jean-Baptiste Grenouille.
Extrait du roman de Patrick Sustine, Le Parfum. Et nous aussi, on a un nez fin dans la curiosité. C'est Elisabeth de Feydeau. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Bienvenue. Merci. Vous êtes historienne passionnée de parfum. Première question pour poser un petit peu le décor, ou en tout cas se rendre compte à quel point les parfums sont populaires. Quel est le parfum le plus vendu au monde aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, le plus vendu à fin 2019, pour les femmes, c'est Coco Mademoiselle de Chanel. Et pour les hommes, c'est Bleu de Chanel. Donc deux parfums Chanel qui sont en tête.
On sait pourquoi ces parfums plaisent énormément ? Pourquoi ils tiennent comme ça la tête du peloton ?
Alors, parce que ce sont des bons parfums déjà,
ouais.
Et puis parce que
c'est quoi un bon parfum ?
Un bon parfum, c'est un parfum qui obéit à certaines règles, on va dire esthétiques, ouais. Hein, qui sont voilà l'équilibre, la tenue, la stabilité aussi, et puis le schéma artistique un peu innovant. Et puis certainement, c'est parce que ils répondent à des attentes plus ou moins conscientes de la part de la société qui est la nôtre aujourd'hui.
Alors, on va faire un peu d'histoire grâce à vous, Elisabeth de Feydeau. Qui a inventé ou quand est inventé le premier parfum ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ?
Alors, j'aurais envie de dire la nuit des temps, quoi. Ça remonte au tout début de l'humanité, peut-être même avant, parce que quand on lit les textes apocryphes de la Bible, on nous raconte cette histoire d'Adam et Ève. Et Ève ayant succombé aux tentations de Satan par l'odorat et par ce fruit qui sentait si bon. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui remonte très très loin. Alors, le premier parfum dont on a la trace écrite, c'est le Kifi, qui est un parfum égyptien, qui voulait dire le parfum deux fois bon, parce qu'il était bon pour les dieux et bon pour les hommes. Et en lui sont réunis toutes les premières utilisations du parfum.
Est-ce que déjà justement dans l'Égypte ancienne, le parfum, il sert à se parfumer, à sentir bon ou à masquer les mauvaises odeurs ?
Oui, bien sûr. Et on remonte encore plus loin parce qu'à l'âge de bronze, on a déjà des traces, alors qui ne sont pas écrites bien sûr, mais des traces d'utilisation de parfum pour des rituels. Rituels donc d'offrande aux dieux, rituels funéraires et également rituel déjà, non pas de séduction, mais pour impressionner l'autre. Le guerrier se parfume pour impressionner sa proie. Vous voyez, il y a quelque chose dans l'idée du pouvoir déjà, sous la préhistoire avec le parfum. Ce qui sera après associé, bien sûr, à l'Égypte ancienne, au pharaon, au pouvoir du pharaon, puisque le pharaon est le seul humain capable, autorisé à porter du parfum. Ce qui lui conférait l'aura qui était ce pouvoir invisible mais terriblement puissant.
Ah, donc l'aura, c'est lié au parfum, à l'odeur.
Oui,
aussi.
Absolument, à l'odeur. Bah, d'ailleurs, Louis XIV, qu'on appelait le roi le plus doux fleuron, c'était pas à cause de sa belle odeur, parce qu'on sait très bien qu'il sentait
surtout
pas bon.
Surtout à la fin de sa vie.
Voilà, il sentait pas bon, mais le roi le plus doux fleuron, c'était ce monarque absolu.
Dans la Grèce antique, si on continue comme ça de feuilleter les pages de ce livre d'histoire du parfum, quel est son usage ? Là aussi, il a de multiples usages ?
Multiples, comme en Égypte ancienne, c'est-à-dire qu'en Grèce antique, on continue bien sûr à honorer les dieux avec des fumigations. Le nom parfum perfumum vient de « à travers la fumée », c'est-à-dire ces parfums qu'on offrait sous forme de fumigation aux dieux, parce que les anciens pensaient que quand on avait un malheur sur la terre, c'est que les dieux étaient en colère. Et s'ils étaient en colère, c'est qu'ils étaient affamés. Et donc, pour les nourrir, on leur portait ces fumées odorantes et gustatives, déjà, pour les adoucir.
Mais, Elisabeth, est-ce que le parfum s'est démocratisé assez vite ? Parce que là, finalement, vous nous... Alors, c'est peut-être parce que les traces parlent des rois, parlent des pharaons, parlent des dieux, mais est-ce que le parfum s'est rapidement démocratisé ? Parce que finalement, il est disponible partout dans la nature. Les plantes, les fleurs, parfum, il est là.
Bien sûr. D'ailleurs, les anciens disaient, quand je sens une odeur et qu'elle est bonne, je dis que c'est un parfum. Donc, c'était effectivement la portée de tous. Mmh. Mais tout de même, le parfum, pendant des siècles, a été lié, bien sûr, à la divinité, au sacré, mais aussi au pouvoir. Donc, le commun des mortels, si vous voulez, n'avait pas accès au parfum. C'était l'ambroisie des dieux, comme chez les Grecs. Donc, on pouvait s'y approcher uniquement si on y était autorisé. Donc, la démocratisation du parfum tel qu'on l'a aujourd'hui, ça remonte au XXe siècle avec François Coty. Donc vous voyez, c'est quand même très récent dans l'histoire du parfum. On continue de raconter.
Il y avait dans ce livre la publicité pour un parfum qui attire les hommes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, Fortuné, viens ici, il faut qu'on te parle. Fortuné, elle est arrivée. Tata Bahlel l'a attrapé, moi je l'ai vidé la bouteille sur la tête.
La curiosité est un vilain défaut.
Vas-y, allez, va t'aérer un peu.
Sur RTL.
Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis sorti dans la rue, je me suis fait attaquer par une meute de chiens. Le parfum avait viré. Même le parfum n'a pas voulu d'elle, alors.
Madame Sarfati, bref, Eli Kaku et sa fille Fortunée, grand classique. On découvre l'histoire, la grande histoire du parfum avec Elisabeth de Fédot, qui est historienne, passionnée de parfum, née fin, comme disait Sidonie tout à l'heure, parce que pour aimer et pour écrire sur les parfums, il faut aussi savoir reconnaître les fragrances les plus fines, les plus subtiles.
Oui, il faut savoir rentrer dans l'odeur, dans la fragrance, pour essayer de la faire toucher aux autres, en fait, que ça soit palpable. L'odeur, c'est comme le son, c'est invisible, mais c'est très fort. C'est très puissant sur le plan émotionnel.
Comment on apprend ça, à classer les odeurs, à les reconnaître finalement ?
Alors, c'est un travail de parfumeur qui est très long. On travaille sur la mémoire associative et on apprend les odeurs et on apprend... C'est-à-dire que quand vous sentez une odeur, vous allez avoir immédiatement une sensation physique qui va revenir, un souvenir, et vous allez identifier cette odeur par rapport à cette sensation physique. Et c'est ainsi que peu à peu, voilà, le parfumeur fait ses gammes et retient. Et il peut composer comme un musicien, c'est-à-dire uniquement intellectuellement. Après, il va vérifier, bien sûr, à la paillasse, mais la composition, elle est comme une partition de musique, elle est écrite intellectuellement.
Vous l'associez presque à une émotion, si je vous comprends bien.
C'est totalement une émotion. Ouais. Bah, c'est le thème de la Madeleine de Proust.
On découvre dans votre livre, Elisabeth de Fédot, paru chez Larousse, ce très beau livre, que les premiers parfumeurs sont des prêtres médecins. Mais pourquoi donc ?
Bah, parce que, comme c'était des parfums sacerdotes, ils étaient préparés en Mésopotamie et aussi en Égypte ancienne par les prêtres dans les laboratoires à l'entrée des temples, dans des pyramides, dans le but d'être offert. Donc c'était pas le but du parfum sacerdote, c'est pas de sentir bon, c'est de diviniser. Donc on divinise les statues qui sont inanimées et on va faire entrer l'âme du dieu dans cette statue et on va aussi diviniser le pharaon, lui conférer ce pouvoir très fort qu'il a sur les autres. Et puis le prêtre était également médecin, puisque c'était les mêmes matières qui étaient utilisées, les aromates. Et les aromates, donc, sont les premiers médicaments. Et voilà, donc le savoir était... C'est quelque chose qui va durer très longtemps, parce qu'on le retrouve en Occident, au Moyen-Âge. Les moines sont également ceux qui préparent les élixirs, donc les médicaments les plus précieux, qui sont aussi des parfums.
Et justement, ça participe de cette démocratisation du parfum dont on parlait tout à l'heure ?
Absolument, puisque le parfum, c'est le principe d'ailleurs du kifi dont on a parlé, le parfum deux fois bon, bon pour les dieux, bon pour les hommes. Le parfum va être autorisé aux hommes uniquement dans sa fonction thérapeutique. Au tout début.
Mais on m'en soignait quoi ?
Ah ben plein de choses, plein de choses. On portait des pommandeurs, des colliers en perles d'encens, on brûlait des matières qui étaient bonnes pour aseptiser les lieux. Vous savez d'ailleurs, si on brûlait des encens, comme on disait, encens qui vient de incensum, du latin, c'est-à-dire ce qui est brûlé, à base de myrrhe, d'encens, notamment l'encens qu'on appelle aussi l'oliban, c'est parce que ce parfum, cette matière, avait un pouvoir purificateur. Donc la première fonction d'un parfum, elle est d'abord physiologique. Elle va être soit de désinfecter, soit de tonifier, soit de détendre, mais il y a toujours un but thérapeutique. À la base.
Pourquoi le parfum est-il aussi, l'histoire du parfum est-elle associée au Gantier ?
Alors ça, c'est l'autre racine de la parfumerie, notamment en France. Le métier français est né du métier d'apothicaire et du métier de Gantier. Donc le métier de parfumeur était finalement un métier secondaire. Et Gantier, parce que pour tanner les peaux, on utilisait au Moyen-Âge le procédé oriental, qui était donc d'utiliser des crottes de chien, de l'urine de cheval, des excréments humains, enfin vous voyez des odeurs, enfin des matières formidables avec des odeurs extraordinaires, et donc pour très fortes et pour désodoriser les traces que ces odeurs laissaient sur les peaux, on plongeait les peaux dans des bains de senteurs qui faisait une sorte de choc des titans, si vous voulez, qui était censé purifier l'odeur de la peau. Et ensuite, on les faisait sécher au soleil après les avoir rincés.
Le choc des titans, il paraît aussi que c'était quand on se rapprochait de Louis XIV, parce que...
C'était le patron, alors on disait trop rien. Voilà. Oui, monsieur, bien
alors
sûr,
que
bien
l'hygiène
sûr,
dentaire laissait à désirer, surtout vers la fin de sa vie. Bref, on va vous raconter comment Louis XIV se parfumait dans la curiosité.
plus.
RTL.
Moi, j'ai une technique, c'est que je vais me faire parfumer gratuitement chez Sephora.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Très souvent, comme ça, les vendeuses, elles veulent me vendre des parfums en fonction de mon physique.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Oula, c'est pour du parfum, j'imagine, pas pour du montage. Allez-y, suivez-moi. Pas trop près, hein, distance de sécurité nasale.
Et Ahmed Silla qui a la bonne idée de se faire parfumer chez un parfumeur célèbre, ou en tout cas un vendeur de cosmétiques.
En tout
cosmétiques.
Cas, c'est dans son sketch.
Oui, c'est dans son sketch.
C'est pas facile de le faire vraiment,
évidemment.
C'est dans son sketch.
Nous sommes avec notre invitée Elisabeth de Feydeau. Vous êtes historienne et passionnée de parfums. On découvre avec vous l'origine de ce parfum qu'on aime, qu'on est assez nombreux à aimer. On a découvert que c'était né il y a très très longtemps, qu'il y en avait déjà dans l'Égypte ancienne. Et vous nous avez dit même que ça remonte à la nuit des temps. Ça servait notamment de médicaments. Et plus tard, à la cour de Louis XIV, Louis XIV, en fait, il fait entrer les parfumeurs à sa cour, pas parce qu'il est forcément coquet. C'est plus un besoin, c'est ça? Un besoin de... Pourquoi?
Alors oui, c'est une politesse. En fait, il demande d'être, de paraître devant le roi avec un parfum. Ce qui est compréhensible, hein, parce qu'on imagine quand même les mauvaises odeurs de l'époque liées à une déficience de l'hygiène, tout simplement. Et les parfums sont à cette époque-là le contrepoint du miasme et tout simplement aussi ce qui va cacher les mauvaises odeurs.
Donc il fait entrer le métier de parfumeur, c'est ça, et il exige de tous les gens qui se présentent devant lui d'être parfumé.
D'être parfumé, voilà. Donc en général, le parfumeur est attaché à certaines grandes personnalités de la cour, ou au roi, tout simplement, ou à la reine, et va créer pour ces parfums, pour ces personnes, des parfums sur mesure.
Comment le parfum était conditionné? On imagine déjà les flacons, les diffuseurs. Comment il était conditionné?
Alors, à l'époque, c'est des flacons à parfum. C'est-à-dire que ce ne sont pas des flacons qui sont destinés à une senteur en particulier, mais à toutes sortes de senteurs. En plus, le parfum, il est fait à l'époque de Louis XIV. Le parfum, il est pratiquement fait au jour le jour. Il n'y a pas de
conservateur.
Il n'y a pas de conservateur. Ah oui. Donc c'est ça.
Mais il est fait avec quoi d'ailleurs?
La péremption est très très courte.
Elisabeth de Feydeau, c'est quoi les ingrédients de base d'un parfum, du parfum qu'utilisait Louis XIV?
Déjà des matières premières dans de l'alcool, puisque la distillation alcoolique a été mise au point entre le 10e et le 12e siècle après Jésus-Christ. Et donc on est déjà dans la parfumerie alcoolique, mais c'est que du naturel, 100% naturel. Donc forcément, ça ne dure pas très très longtemps.
On connaît le parfum préféré de Louis XIV?
Alors, on sait qu'au début, il aimait se parfumer avec des notes animales, comme son ancêtre Henri IV. Donc castoréum particulièrement, civette, musc. Et ensuite, quand il se rapproche donc, de la fin de sa vie, il va apprécier davantage les notes calmantes de l'eau de fleur d'orange, puisque en plus, il a son orangerie où pousse l'oranger bigarade qui produit cette essence. Et à la fin de sa vie, comme il a des névralgies dentaires terribles, il ne supporte plus aucun parfum et il est banni de la cour.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il s'était fait arracher une dent et que
absolument.
La moitié de son palais était parti lors de l'opération. On parle des parfums et les flacons depuis. Là aussi, si on recherche la trace la plus ancienne d'un flacon, j'imagine qu'on remonte assez loin.
En Iran, 4e millénaire avant Jésus-Christ, et on a des contenants en céramique, en pierre dure, qui sont donc pour les parfums qui, à l'époque, sont essentiellement solides, puisque ce sont des parfums qui sont destinés à être fumigés, ou alors à être sur des parfums à base d'huile, si vous voulez, notamment l'huile de benne, qui était l'huile la plus précieuse sous l'Antiquité, qui est une huile faite à partir du moringa peregrina, qui est une petite amande qui pousse en Arabie. Et donc on a des contenants différents pour...
Et les flacons de verre qui ressemblent beaucoup plus à ceux que l'on connaît aujourd'hui, ils apparaissent beaucoup plus tard, j'imagine.
Verre soufflé, oui, 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis bien sûr, après ça va remplacer complètement les autres matériaux, quoique la porcelaine va durer aussi longtemps. Au 18e, on a beaucoup de flacons figuratifs en porcelaine polychromée. Et puis ensuite, ça sera le cristal.
Elisabeth de Feydeau, le parfum est très longtemps naturel. Vous dites qu'il n'y a pas de conservateur, il faut le refaire tous les jours. À partir de quand il devient synthétique?
Alors, les premières applications de la chimie organique à l'art du parfum remontent à la fin du 19e siècle. Donc, les premières molécules sont identifiées vers 1860 à peu près. Et les premiers parfums qui utilisent ces molécules de synthèse...
C'est l'aldéhyde, c'est ça, notamment?
Alors, les premières, c'est vanilline et coumarine.
Oui.
La coumarine en 1884 avec Fougère Royale de Houbigant et vanilline pour Jiki de Guerlain en 1889. Mais alors, à l'époque, ça fait une polémique incroyable, une véritable querelle des anciens et des modernes, parce qu'on est persuadé que le parfum synthétique, ça va rendre les femmes stériles, ça va rendre tout le monde malade. Vous savez, c'est toujours la crainte du progrès. Et au point que les parfumeurs comme Aimé Guerlain n'osent pas avouer qu'ils utilisent des parfums synthétiques dans leurs parfums. On va parler de Guerlain d'ailleurs.
C'est du sang.
Oui, il y a quoi comme produit là-dedans?
C'est écrit en chinois, donc c'est pas, mais t'inquiète, toi c'est bon.
Mais vous rigolez, il y a une tête de mort derrière.
Non mais justement, c'est ce qu'il dit, c'est une tête de mort, mais tête de mort en chinois, ça veut dire parfum à pirate, ouais. Parfum à baril de rhum, parfum... où il est le banc, tu vois, genre tout ce qui est perroquet sur l'épaule, tu vas tranquille.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est à Villa Défaut.
Quand les humoristes du Palmacho analysent les ingrédients d'un parfum...
Enfin, essayent d'en faire un, on va leur laisser.
Ouais,
hein.
C'est ça, ouais. Exactement. Secret de parfum avec Elisabeth de Feydeau, historienne, passionnée de parfum. Et ce parfum qui n'est pas dangereux et qui est une merveille, c'est Chalimard de Guerlain. Il est lancé en 1925. Pourquoi on dit que c'est le chef-d'œuvre de Jacques Guerlain?
C'est un des chefs-d'œuvre de Jacques Guerlain, parce que c'est quand même un créateur extraordinaire. Mais Chalimard, parce que, si vous voulez, il s'inscrit dans un mythe qui est celui de l'amour éternel entre... Shah Jahan et Mumtaz Mahal, qui est une des plus belles histoires d'amour, née au XVIIe siècle, dans l'Inde moghole, et qui va être immortalisée par le Taj Mahal, donc qui est une des merveilles du monde.
Il va construire ça pour son épouse.
Pour son épouse, voilà, favorite, qui est décédée prématurément, donnant naissance à son 14e enfant. Et donc cette histoire arrive en plein Paris des années folles, jusqu'aux oreilles de Jacques Guerlain, qui se met à rêver de ce parfum d'amour. Et ce parfum d'amour aura les senteurs de la vanille, du jasmin, de l'ambre, et sera contenu dans un flacon sublime, dessiné par Raymond Guerlain, donc le cousin de Jacques, qui a la volonté de créer un parfum, un flacon historique. Donc de ne pas s'inscrire dans ce mouvement des arts déco, mais au contraire de s'approcher, de s'inspirer de l'art moghol avec ce très très beau flacon de cristal baccara qui a une forme de coupe. Donc là aussi, encore, vous voyez, l'amour, la générosité est surmonté par ce bouchon en forme d'éventail de couleur saphir.
On va parler de l'industrie du tabac tout de suite sur RTL. C'est un parfum aussi, le tabac, qui est utilisé?
Mais oui, bien sûr. Il y a une molécule qui s'appelle isobutylquinoléine, donc qui a un nom un peu barbare, mais qui a été à l'origine d'une famille olfactive qu'on appelle les tabacs cuir, qui est née en 1919 avec tabac blond de Caron et qui s'adressait aux garçonnes. Vous savez, ces femmes qui se libéraient et qui, malheureusement, ne pouvaient pas encore entrer dans des lieux
dans les clubs,
typiquement masculins. Voilà,
les clubs.
Qui sentaient le tabac et le cuir. Donc, au lieu d'entrer dans les clubs, eh ben, elle se parfumait avec l'odeur des clubs.
Merci infiniment,
merci.
Elisabeth de Feydeau. C'était formidable, comme
merci
toujours, dans
beaucoup.
La curiosité avec vous. On peut prolonger ce plaisir et ses senteurs avec votre très beau livre, La grande histoire du parfum. C'est chez Larousse et on ne s'avance pas trop en disant que c'est un très beau cadeau de Noël.
Mais écoutez, ça serait bien, oui.